Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, je vous rappelle simplement qu'Isabelle s'est absentée aujourd'hui. Elle sera de retour à son micro dès demain. Bienvenue tout spécial à nos amis de l'Outaouais qui se joignent à nous à cette heure-ci via le 104.7 et à nos amis de l'Estrie, 107.7, bien sûr, en plus du Grand Montréal au 98.5. C'est un plaisir de vous retrouver. Ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas animé l'émission d'Isabelle, alors ça me fait grand plaisir d'être avec vous ce matin, de vous entendre quand on peut, parce que vous savez que depuis quelques minutes, on a un petit problème avec nos lignes téléphoniques. On va espérer que ça s'arrange d'ici la prochaine pause, parce que j'aimerais bien vous entendre sur notre prochain sujet, qui est sur le gaspillage de nourriture. Imaginez, on gaspille énormément de nourriture en Occident. Et ce qui est particulier, c'est que les études diffèrent, pour ne pas dire se contredisent carrément, à savoir est-ce que ce sont nous, les consommateurs, qui gaspillons, qui jetons le plus de nourriture, les producteurs, les fermes, les magasins, les restaurants. Une étude disait récemment que ce serait moins les consommateurs, plus les producteurs, on regarde une autre étude, c'est le contraire. Mais en fait, peu importe qui jette, on dit que plus de 58 % des denrées alimentaires produites au pays, on parle de 38 millions de tonnes de denrées, prendraient le chemin de la poubelle, des sites d'enfouissement chaque année, puis c'est peut-être même plus que ça. Paraîtrait qu'on jette en moyenne l'équivalent de 400 $ de nourriture par année, par foyer. Si on est quatre, ça voudrait dire 1 600 $ par foyer. C'est quand même pas mal d'argent. Alors, je pense qu'il est temps qu'on essaie de voir comment éviter ça. Notre invité est passionné de ce sujet. Il s'appelle Éric Ménard. C'est un expert et leader en lutte contre le gaspillage alimentaire. Ça le dérange tellement, ce gaspillage-là, qu'il a créé un blog qui s'intitule « Tu vas pas jeter ça ».
Exactement. Ben, bonjour.
Bonjour, Éric. Ça va bien?
Oui, ça va bien, vous?
Ah, oui, merci. D'où est venue cette idée du blog, tout d'abord, sur ce sujet-là?
Ben, en fait, parce que ben, moi, j'ai fait ma maîtrise en environnement à l'Université de Sherbrooke en 2011, 2012, jusqu'en 2013. Puis j'ai choisi le gaspillage alimentaire comme sujet pour mon essai de maîtrise. Puis je me suis rendu compte, en fait, qu'il y avait très peu d'informations sur le sujet au Québec à ce moment-là. Puis, donc moi, je me suis vraiment spécialisé là-dessus. Puis rapidement, je suis devenu un peu une sommité en la matière. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de mauvaises informations, de beaucoup de mythes à rectifier un peu. Fait que je me suis dit, ah ben, il y aurait vraiment un besoin là, d'informations du public sur le gaspillage alimentaire.
Sur votre blog, vous vous définissez comme un enverdeur. Alors,
oui.
Je pense que c'est important de décrire ce que c'est un enverdeur. Est-ce que c'est un vrai mot? Est-ce que c'est dans le dictionnaire maintenant? C'est quoi un enverdeur? On se doute, hein, évidemment, avec le mot vert, mais quand même. Je vous laisse nous expliquer ce qu'est l'enverdeur.
Oui, ben c'est un terme qu'on entend par certains chroniqueurs qui n'aiment pas beaucoup les discours environnementaux. Un terme qui était originellement utilisé pour dénigrer, en fait, les environnementalistes, pour les maudits enverdeurs, hein, avec leur tâche. Puis blablabla. Mais donc, moi, j'ai décidé de reprendre le terme à la positive parce que je trouve que, surtout, on entend depuis les dernières années, hein, les changements climatiques, ça devrait vraiment être une priorité pour tout le monde d'améliorer notre empreinte environnementale, de la réduire, puis de lutter contre les changements climatiques. Donc, si on dérange avec les discours environnementaux, bien, quelque part, c'est une bonne chose.
Tant mieux.
Parce qu'il faut bousculer un peu les habitudes puis les changer. Donc, moi, j'ai décidé de reprendre le terme à la positive. Bien, si je vous enverbe, bien, c'est une bonne chose.
Ah, parce qu'on peut faire le verbe avec ça. Si je vous enverbe, J'adore ça. Ça coûte de plus en plus cher pour manger, pour se nourrir. C'est assez effarant de voir ce qu'on jette. C'est paradoxal, là. On paye de plus en plus cher, puis on jette quand même.
Oui, ben c'est ça. Mais comme vous le disiez tout à l'heure très bien, là, c'est que d'une étude à l'autre, c'est qu'on se rend compte que c'est extrêmement difficile à quantifier le gaspillage alimentaire, hein, parce que même chez
les consommateurs. Pour ça que les études se contredisent.
Exactement. Les études se contredisent parce que moindrement qu'on change un peu la méthodologie des calculs puis les sources des chiffres, on peut arriver à des résultats vraiment très différents. Donc, on n'est pas en mesure de savoir où est-ce qu'il y a le plus de gaspillage aujourd'hui, mais on le sait par contre qu'il y en a beaucoup à toutes les étapes. Que ce soit à la ferme, on le sait qu'il y a énormément d'aliments qui sont pas récoltés tout simplement pour mille et une raisons. À la ferme, ensuite, dans l'industrie de la transformation, il y a plein de retailles, plein de résidus qui sont jetés, qui pourraient être comestibles. À la vente au détail, plein d'aliments qui sont gaspillés parce qu'ils commencent à être un peu défraîchis, la date de péremption. Puis à la maison, bien, on le sait aussi, hein, qu'on est responsable de beaucoup de gaspillage, les restes de table, les fruits un peu abîmés, les fruits qui sont du tout mous, les légumes qui commencent à être défraîchis. On le sait, là, qu'on est tous responsables d'une part non négligeable de gaspillage alimentaire.
Est-ce que ce sont les fruits et légumes qu'on jette le plus ou vraiment il y a de tout?
Il y a un peu de tout, ça c'est sûr, mais c'est beaucoup à la maison, c'est sûr que c'est les fruits et légumes principalement parce que c'est des aliments qui sont qui sont très périssables. Hein. Puis quand ils sont rendus chez nous, souvent, ça fait un petit moment qu'ils ont été récoltés. Surtout là, en hiver, si on consomme c'est bon de consommer des légumes locaux, mais ils ont pas poussé la semaine passée. Hein. Donc, ils commencent à avoir quelques mois dans le corps. Fait que c'est sûr qu'ils se gardent moins bien rendus à la maison.
Là. Est-ce que les serres peuvent faire une différence quand on parle de légumes de serre? Là, est-ce que des serres fonctionnent au Québec aussi en hiver avec le soleil pétant? Ou est-ce
Il y a tout à fait des fruits et des légumes qu'on peut produire ici même en hiver. Par contre, c'est encore un peu discutable au niveau de l'empreinte environnementale, si c'est préférable de le faire ou non. Parce que si c'est des serres qui sont chauffées, mais là, à ce moment-là, ça consomme beaucoup plus d'énergie que si on importait en fait des légumes de saison, qui sont de saison, mais ailleurs. Hein, le fait qu'ils peuvent vraiment pousser.
Moi, je disais ça avec une bonne intention. Ouais, puis on oublie toujours l'autre aspect.
Exactement.
Et c'est tellement important d'en parler.
Tout à fait.
Tellement important.
Mais l'empreinte environnementale des aliments, c'est pas évident. Des fois, c'est contre-intuitif. Justement, on a souvent l'impression que local, c'est l'argument le plus fort au niveau environnemental, mais c'est pas aussi simple que ça.
Bien, un autre aspect, en lisant sur vous et sur votre blog, j'ai été encore là assez estomaquée de voir que, bon, le compost, c'est nouveau dans certains foyers à Montréal. Maintenant, il y a des quartiers où est-ce qu'il y a le bac brun et c'est formidable et c'est fantastique. Mais je lisais que ça peut aussi avoir un effet pervers.
Ben oui, parce que moi, j'ai animé énormément d'ateliers culinaires à thématique anti-gaspillage alimentaire où on enseignait aux gens à cuisiner pour éviter de gaspiller. Puis, on demandait aux gens s'ils avaient l'impression qu'ils gaspillaient beaucoup au début des ateliers. Puis, énormément de gens disent « Ah non, moi, je gaspille pas, je fais du compost.
»
Souvent, il y en a qui...
Ils donnent bonne conscience.
Exactement, c'est ça. Puis, c'est un peu le danger, l'espèce de lame à double tranchant, que c'est mieux, justement, que les résidus alimentaires aillent au compost qu'aillent aux poubelles, ça, c'est certain. Mais après, il ne faut quand même pas se déculpabiliser de jeter plein d'aliments en se disant comme, ben, c'est pas grave parce que ça s'en va au compost. Ça reste quand même du gaspillage qui a un impact monstrueux parce qu'en fait, le plus gros des impacts du gaspillage alimentaire, c'est pas le résidu en fin de vie, c'est la production alimentaire derrière. C'est vraiment parce que quand on gaspille, on est obligé de produire plus en amont, d'avoir plus de terres agricoles pour compenser tous les aliments qui sont gaspillés, puis c'est là qu'est le plus gros de l'impact.
J'allais j'aimerais ça qu'on se penche aussi là au cours de cette demi-heure, c'est bien important, sur les façons de moins jeter, parce que j'imagine que vous avez étudié tout ça, et ce qui peut donner des résultats surtout, parce que des fois c'est bien beau d'avoir plein de belles intentions, tu sais les fameuses résolutions de janvier, là, puis on arrive en février, puis même si on paye le gros prix pour aller au gym, on y va plus. Ça serait quoi la première chose à faire pour éviter ce gaspillage?
Ben c'est de résister aux tentations de consommer des nouveaux aliments. Mais c'est un peu ça, c'est vrai pour n'importe quel geste de consommation. On est dans une société de surconsommation. On est toujours tenté d'acheter des nouvelles choses à tous les jours, que ce soit des vêtements, des objets, des aliments. On est toujours en train d'aller acheter quelque chose.
T'sais. On est très stimulé visuellement aussi.
Oui, exactement.
Tu sais, les supermarchés sont beaux dans bien des cas. C'est tellement coloré.
Ouais.
On veut et puis il y a des comptoirs plus en évidence
avec des
nouveaux produits.
On veut
faire essayer.
Absolument.
Ah là, ben, on va l'acheter.
Donc, ben, c'est ça. Donc, la première... Mais souvent, justement, on va acheter des choses dont on n'a pas besoin. Donc, c'est vrai pour tous les biens de consommation. On achète des choses dont on n'a pas besoin. Pour les aliments, souvent, on achète des nouveaux aliments qui sont beaux puis qui ont l'air appétissants, alors que notre frigo est déjà plein d'aliments. On a toujours des frigos qui débordent. Hein? La majorité des gens que j'ai vus ont pas mal des frigos assez pleins. Même s'ils sont juste deux personnes, le frigo déborde. Puis c'est sûr qu'un frigo qui déborde, y a des choses qui se perdent dans le fond.
On les voit pas.
Le premier, moi, vraiment sur quoi je martèle, c'est de cuisiner puis de manger ce que vous avez en priorité déjà dans votre frigo. T'sais. Avant d'aller acheter de nouvelles choses, quand vous pensez à vos recettes, ouvrez le frigo, regardez ce que vous avez déjà.
Parce que ça nous est tous arrivé, je suis sûre que ça vous est arrivé aussi à vous, chers auditeurs ou auditrices, d'être au supermarché sans liste, sans rien, parce que vous pensez, j'ai besoin de trucs pour mon souper, et on achète, puis on arrive à la maison, j'en avais déjà.
Ben oui, c'est ça, exactement.
C'est vraiment poche.
Ben
alors
oui.
Donc, un des trucs, ça serait vraiment de regarder ce qu'on a dans le frigo avant toute chose.
Exact.
Se faire une liste aussi, j'imagine.
Ben oui, c'est ça. Se faire une liste pour aller compléter ce qui nous manque, tu sais, puis vraiment s'en tenir à ce qui nous manque pour faire nos recettes, mais un peu aussi donc de choisir les recettes en fonction de ce qu'on a. Moi, quand je me pose la question qu'est-ce qu'on mange, ben la première étape chez nous, c'est qu'est-ce qu'on a déjà, tu sais. Puis là, on construit notre menu en fonction de ce qu'on a.
En effet. On va s'arrêter le temps de la pause. Si vous voulez nous écrire, vu qu'on a des petits problèmes avec nos, nos lignes téléphoniques ce matin, on s'en excuse. Hein? Moi, j'aurais tellement aimé ça vous entendre, mais bon, pour l'instant, c'est pas possible. À moins que je vous donne mon numéro de cellulaire, mais là, je pense que ça sera pas l'idée du siècle. On vient de me faire signe de l'autre côté. Fais pas ça comme si j'allais le faire. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Non. C'est de voir la face de Norman Jim. Je pense qu'il a failli faire une syncope juste à m'entendre dire ça. Alors, vous pouvez écrire à Isabelle, à commercial, 98.5fm.ca, ou encore Marie, trait d'union, Claude.Lavallée. J'ai de la misère avec mon adresse. Marie, trait d'union, Claude.Lavallée, 2L2E, à commercial, 985fm.ca. Alors, la pause et je vous lis après cette pause. On jette beaucoup, beaucoup de nourriture. C'est le sujet de cette demi-heure en compagnie d'Éric Ménard, expert et leader en lutte contre le gaspillage alimentaire, créateur du blog Tu vas pas jeter ça.com et aussi coordonnateur du Régal, le réseau contre le gaspillage alimentaire. Est-ce que de plus en plus de gens embarquent dans ce réseau?
Oui, c'est vraiment un phénomène grandissant là, depuis les dernières années. Moi, justement, j'ai fondé ce réseau-là en 2016 parce que quand j'ai commencé, moi, à m'intéresser au sujet du gaspillage, je le disais tout à l'heure, en 2012-2013, j'étais un peu tout seul dans ma gang. Là. On n'était pas beaucoup qui travaillaient sur le dossier, mais dans les dernières années, on s'est mis, le sujet a vraiment pris de l'ampleur puis est devenu de plus en plus populaire. Puis il y a eu plein de nouvelles initiatives pour lutter contre le gaspillage alimentaire à Montréal. Puis je me rends compte, comme c'est des nouvelles petites initiatives, ben, les gens ne se connaissaient pas entre eux. Puis ça, des fois, il y avait des doublements, il y avait des choses qui pouvaient se ressembler, qu'il y a des gens qui méritaient de travailler ensemble plutôt que séparément. Fait que moi, je décide donc de créer ce réseau-là pour que les gens qui travaillent contre le gaspillage alimentaire à Montréal se connaissent puis puissent travailler de manière le plus complémentaire possible.
Quelles sont les initiatives que tu trouves les plus prometteuses en ce moment? Je pense qu'il y a certains supermarchés qui prennent des mesures hein, pour faire moins de gaspillage puis soit donner à des œuvres.
Oui. Il y a Moisson Montréal qui est absolument une chance qu'on les a ici au Québec parce que c'est la plus grosse banque alimentaire du Canada, puis ils récupèrent des millions de kilos de denrées à chaque année qui auraient été gaspillées autrement là, dans les supermarchés, mais aussi énormément, beaucoup dans l'industrie de la transformation, de la grande distribution.
Restaurants aussi, moi je me demande toujours, d'abord, tu sais ces fameux restaurants où est-ce qu'il y a un menu là, de 12 pages,
ouais.
Mais c'est aussi, ouais. Je me dis toujours, mais comment ils font pour, ouais. Un, pour que ça soit frais, peut-être ça ne l'est pas toujours, peut-être c'est des choses congelées, je ne veux pas dire que ce n'est pas frais, pas mangeable, mais il y a beaucoup de pertes dans les restaurants aussi, en général.
Oui, puis ça, à ma connaissance, il y a quand même eu une certaine vague dans les restaurants pour réduire le gaspillage alimentaire en cuisine. C'est devenu vraiment une conscientisation à ce niveau-là pour ce qui se passe en cuisine, puis un peu une mode, c'est pas vraiment une mode, mais une tendance, entre autres, qui a été lancée par le Toqué il y a plusieurs années, de vraiment cuisiner les aliments à 100% dans les cuisines, mais aussi dans une optique de réduction des coûts. Mais par contre, je vois pas beaucoup le changement de pratique au niveau de l'offre, justement, de la salle à manger. Puis on le sait que dans les restaurants, la majorité du gaspillage se produit dans les assiettes des clients.
C'est vrai.
Puis le restaurateur, il a un rôle à jouer dans ce qu'il offre, puis dans les tailles de portions qu'il offre, puis dans le menu. Puis... Fait que là, à ce moment-là, j'ai pas vu beaucoup d'amélioration là-dessus.
Je vais vous faire rire dans ça. Il y a un restaurant où j'aime aller manger de temps en temps, puis je trouve leurs frites extraordinaires, mais je veux pas en manger beaucoup. Mm. Alors je leur dis, faites-moi un quart de portion. Ah. Faites, chargez-moi la portion si vous voulez. Je veux pas manger
bon,
plus.
Ça.
Mais
ouais.
Ils font pas. Ils m'en mettent plein. Le chef en met plein. Puis je suis sûr qu'on lui dit, c'est juste qu'il est content de nourrir ça. Ah. Tu sais, ce syndrome aussi,
ben
hein, de vouloir.
Oui. Ben oui.
J'appelle ça, moi, le syndrome de la maman italienne qui veut vraiment bien nourrir son
ah,
monde.
Ouais.
Et tout ça.
Ah ouais.
J'ai un courriel ici de ma... quel est le nom de cette personne? Elle signe Mani 1425. Je ne dirais pas son adresse, mais je pensais que c'était Marie, mais c'est Mani. Annie, OK. Bonjour, nous sommes un couple début cinquantaine, plus d'enfants à la maison et tous les dimanches après-midi, on fait notre liste de repas de la semaine, dîner et souper en faisant le tour de notre frigo et congélo afin de passer le maximum de nourriture que nous avons en inventaire. Nous ne jetons pratiquement jamais de nourriture et réussissons à manger très santé et très varié toutes les semaines. C'est ça qu'il faut faire, dans le fond, des listes, regarder comme il faut, planifier.
Ben oui, ben tu sais, si on peut le faire comme ça, c'est vraiment un parfait exemple, c'est génial. Après, il y a des gens qui sont moins organisés dans la vie, puis je fais partie de ces personnes.
Et moi aussi.
j'ai la chance d'avoir une épicerie comme deux épiceries à 5 minutes à pied, tu sais. Fait que moi, je peux quand même avoir ce luxe-là d'arriver chez moi avant souper, de regarder ce que j'ai, puis de pas l'avoir nécessairement prévu à l'avance. Mais je suis aussi très débrouillard puis très créatif, fait que je suis capable de faire des repas à partir de ce que j'ai. Puis s'il manque un ingrédient, ben on est à 5 minutes de l'épicerie, ça va bien. Mais pour des gens qui veulent faire l'épicerie vraiment juste une fois dans leur semaine, qui veulent être plus organisés, ça, c'est vraiment une bonne façon de faire.
Excellent. Bon, j'aimerais qu'on parle aussi, Éric Ménard, donc expert et leader en lutte contre le gaspillage alimentaire, des emballages. Parce qu'on sait que la tendance en ce moment est de diminuer les emballages. Mm-hmm. Mais on fait quoi? Parce qu'en même temps, il y a des gens qui vont vous dire, ouais, mais attention, l'emballage, ça peut permettre aussi de faire durer le fruit ou le légume plus longtemps.
Oui, c'est ça.
Qu'est-ce qu'on
fait? La question des emballages est vraiment pas simple, justement, parce que là, on est vraiment dans une grosse tendance. C'est le mouvement zéro déchet présentement. Puis moi, je réduis beaucoup mes déchets aussi, puis j'adore ce mouvement-là. Mais il y a certaines limites, justement, au niveau de l'alimentaire, parce qu'il y a des emballages qui, effectivement, permettent de préserver les aliments puis de les conserver beaucoup plus longtemps. Puis, au niveau de l'empreinte environnementale, l'impact du déchet d'emballage est moins pire que l'impact du déchet de l'aliment en général. Donc, il vaut mieux avoir un aliment emballé qu'on ne va pas gaspiller plutôt qu'un aliment en vrac qui va être perdu. Donc, à ce moment-là, c'est là que c'est pas évident de savoir lesquels aliments on devrait, c'est correct qu'ils soient emballés, lesquels c'est trop. L'industrie alimentaire, je sais qu'ils réfléchissent beaucoup à la question, puis les supermarchés, il y en a qui essayent de faire différemment. Mais il faudrait aussi peut-être voir à limiter. Moi, j'ai une amie qui est justement une blogueuse zéro déchet, puis qui est elle, parce qu'il y a des concombres, les concombres anglais qui sont emballés.
Oui.
Tout le temps, ils sont toujours emballés, justement, parce que s'ils ne sont pas, ils vont trop s'abîmer. Ben, elle, dans le fond, ce qu'elle fait comme choix, c'est qu'elle n'achète pas ces concombres-là, elle achète les concombres de champ qui peuvent être vendus
en vrac,
justement. Donc, puis c'est peut-être de faire
des
choix.
Nos choix de consommateurs.
Exactement.
Ça, c'est notre grand pouvoir.
Oui, exactement.
Même si on n'a pas cette impression-là. Souvent, on se dit, bon, c'est juste moi. Mais ce n'est pas vrai. Ça s'additionne.
Ouais.
Ça s'additionne. J'ai un autre courriel ici. Isabelle nous dit, il y a un resto à déjeuner où ils donnaient toujours deux pains croûtés, mais puisqu'il en restait presque toujours un dans l'assiette, ils ont réduit à un seul.
Ah.
Si on en veut deux, ils ne le chargent pas, mais il faut le demander.
Bravo.
C'est un petit exemple.
Ben oui, oui, oui.
Je vais le nommer, le restaurant, c'est La Petite Marche. Pourquoi pas?
Ah, il y a plein de choses comme ça que les restaurants
peuvent faire. C'est des petits détails,
sinon
les assiettes, effectivement, on jette. On a beaucoup de retard au Canada comparé à l'Europe dans ce domaine-là. Pourquoi?
Ah, c'est dur à dire ici.
En France, il y a des politiques sévères.
Ben oui, en France, ça fait plusieurs années là, qu'ils ont des lois contre le gaspillage alimentaire, que le gouvernement a un plan d'action, une stratégie nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire, une journée de sensibilisation au gaspillage à tous les ans. L'Union européenne se sont dotés d'objectifs de réduction du gaspillage alimentaire aussi. Donc, on voit vraiment que l'Europe a entamé des démarches là, pour sérieuses puis politiques pour lutter contre le gaspillage. Mais ici, il n'y a rien. Puis, il y a deux ans, le gouvernement fédéral, le gouvernement canadien, a rejeté un projet de loi contre le gaspillage alimentaire ici même au Canada. Puis, donc, la raison pour laquelle on prend du retard, c'est dur à dire. Mon hypothèse serait probablement des lobbies. Des lobbies agroalimentaires qui veulent pas justement se faire mettre des bâtons dans les roues, qui veulent pas avoir des normes à suivre parce que évidemment que avoir des politiques contre le gaspillage alimentaire, ben ça à quelque part c'est sûr que ça va engendrer des normes sur l'industrie puis l'industrie,
des changements.
Ben oui, c'est
la
ça.
La nature
qu'on va imposer des changements que l'industrie veut pas nécessairement.
La nature n'aime pas le changement dans bien des cas. La nature humaine, je devrais dire. En effet. Donc effectivement, ça peut être une des causes.
Ouais.
Peut-être pas la seule, mais ça prend une volonté politique assez solide aussi.
Oui, c'est ça.
Là.
Il n'y a aucun gouvernement qui va gagner ou perdre une élection sur ce sujet-là. Ce n'est pas un sujet que... Oui, tout le monde... C'est drôle, c'est un sujet sur lequel tout le monde est unanime, qu'on veut que c'est mauvais, le gaspillage alimentaire, qu'on ne veut pas qu'il y en ait. Mais après, ce n'est pas un sujet prioritaire dans la tête de personne, puis ça ne sera pas comme une... C'est pas personne justement qui va faire cette promesse-là électorale, qui va le faire, qui va être élu ou pas. Là. Fait que c'est sûr qu'au niveau politique, ça n'a pas beaucoup de poids, d'impact.
Bon, j'ai deux courriels ici. C'est important de les lire parce que d'habitude, on prend
sûr.
Les appels. Là, ce matin, on ne peut pas parce que les lignes sont défectueuses. En fait, le système est défectueux. Alors, André de Montréal nous dit « Je vis seul, mais pour économiser, il faut acheter trois articles identiques pour profiter du rabais dans les grands supermarchés. » Ça aussi, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de petites initiatives, des portions individuelles, des plats individuels dans les supermarchés. Mais il y a encore du chemin à faire pour aider là, ceux qui ne veulent pas acheter 60 cuisses de poulet. Là. Tu sais, les paquets, c'est tellement gros. Mais je peux comprendre, pour une grosse famille, c'est formidable.
Ouais.
Mais il y a beaucoup de monde qui vivent seul.
Oui. Mais c'est dur de s'adapter justement aux quantités quand on est une personne seule. On en parlait tout à l'heure pendant la pause. Je l'ai entendu souvent aussi là, comme témoignage de gens qui sont personnes seules parce que les formats sont généralement gros ou même il y a une économie de volume. Hein. Les gens vont être tentés d'acheter plus gros parce que ça coûte moins cher. Mais au final, s'ils sont pour en perdre beaucoup, ben ils ne rentrent pas dans leur argent. Fait que c'est d'acheter des plus petites quantité, mais c'est plus difficile, c'est sûr.
Ouais.
C'est sûr.
Un autre courriel de Raphaël qui dit « Ma blonde a fait des sacs réutilisables en tissu, genre filet, et ça garde nos légumes frais et longtemps. » Je lisais deux choses qui me scandalisent, puis on va probablement terminer à peu près là-dessus. Il nous reste une petite minute. Les fameux buffets dans les restaurants, bon, il y en a ici au Canada, au Québec, mais aux États-Unis, je lisais cet article où on disait qu'on jette la moitié des buffets en général. C'est un fléau. Et en plus, moi, c'est drôle, mais je ne devrais peut-être pas dire ça en ondes, mais moi, j'ai un petit peu de dédain quand je vais dans les buffets. Parce que récemment, j'étais allée justement l'année dernière une fois, puis la dame qui était avant moi toussait, puis elle toussait dans sa main, puis elle prenait les cuillères pour se servir. Tout ça. Donc, je suis un petit peu dédaigneuse, alors donc je fais attention. Mais ne serait-ce que pour ce principe-là, moi, je pense que je vais boycotter les buffets dans le sens où si c'est vrai qu'on en jette la moitié, ben là, ça marche pas.
Ben, c'est vraiment une formule qui génère beaucoup de gaspillage, ça c'est certain. Puis ne serait-ce que le gaspillage dans les assiettes des gens, là, que c'est à la volonté, fait que les gens ils servent des immenses assiettes, ils mangent deux bouchées, finalement ils n'aiment pas ça, ils n'ont plus faim, ils gaspillent le reste. Une des bonnes solutions qu'on retrouve de plus en plus dans les restaurants de sushis à volonté, c'est une pénalité sur les restes dans les assiettes. J'ai déjà vu ça dans un restaurant plus style plus buffet indien, en fait, qui a une pénalité. Si vous ne mangez pas toute votre assiette, on vous charge sur la facture pour ce que vous n'avez pas mangé. Les gens, ils vont y penser.
Il y a une police qui se promène dans le restaurant pour voir si vous avez tout mangé.
Je pense quand il y a la facture à la fin.
C'est un vrai restaurant. Pourquoi pas. Alors, donc, et puis dernière chose aussi que j'ai vu en lisant le rapport, ça, je trouve ça intéressant. Près d'une personne sur deux aux États-Unis, toujours, j'ai pas de données pour le Canada, serait prête à acheter fruits et légumes modifiés génétiquement s'ils duraient plus longtemps. Pas sûr.
Ouais, ça, c'est un autre sujet, ça.
C'est un autre sujet, les OVM. En effet. Mais Éric Ménard, je répète, vous êtes expert et leader en lutte contre le gaspillage alimentaire, créateur du blog tuvaspasjeterça.com, coordonnateur du Régal, le réseau contre le gaspillage alimentaire et conférencier. Je pense que vos conférences doivent être fabuleuses, très intéressantes. Alors, merci beaucoup de vous être arrêté, d'être venu nous voir en studio pour nous parler de tout ça. Et j'espère que cette demi-heure aura permis à nos auditeurs et nos auditrices d'être plus conscient et de faire attention. Moi la première. Merci beaucoup.
Bonne journée.
Bye bye.